aujourd'hui. RFI, grand reportage.
Sébastien Farcy.
Nida Hadjar tient tous les comptes sur un petit cahier. Elle y a répertorié le nom de chaque famille qui a fui avec elle dans cette nuit du 23 août. Plus de 600 personnes, deux villages entiers, ont pris la route avec tout ce qu'ils pouvaient porter quand les combats entre le MILF et l'armée philippine ont éclaté juste à côté de leur maison.
Nous avons été réveillés en pleine nuit par des tirs de bazooka. Ils venaient de trois directions différentes. Au début, nous nous sommes tous réunis près de la maison du chef du village. Mais quand un enfant a été blessé à la jambe par un éclat d'obus, nous avons tous décidé de partir.
C'est un véritable convoi de tout âge qui s'est mis alors en route. Ils ont marché pendant près de 12 heures sur 11 kilomètres avant d'atteindre le village de Datupiang. Ici, ils ont sorti quelques tissus pour se protéger du soleil et dorment à même le sol, sur des nattes distribuées par la mairie. Quelques sacs de riz leur ont été fournis en plus par le Programme Alimentaire Mondial quelques jours avant. C'est la période du Ramadan et le jeûne est très difficile dans ces conditions pour ces musulmans que l'on appelle aux Philippines les Moro. Ten Tabak, un père de quatre enfants, est réfugié ici depuis une semaine.
Le soir, au moment de la rupture du jeûne, nous n'avons pas beaucoup de nourriture. C'est juste assez, même si c'est dur de tenir pendant la journée. Mais pour moi, dans ces moments difficiles, il ne faut pas oublier notre Dieu et lui tourner le dos. Le soir, nous prions tous ensemble et cette foi est pour moi un réconfort.
Cela fait plus de 10 jours qu'ils vivent dans ce camp de fortune. Ce village de Datupiang, situé au centre de la zone des combats, a accueilli jusqu'à 30 000 personnes dans 14 camps similaires. Et la situation devient préoccupante, car il y a peu d'eau potable, par exemple, et les réfugiés se servent donc parfois de la rivière d'à côté pour leur alimentation. Des maladies graves pourraient donc bientôt surgir, s'inquiète Elisabeth Samama, directrice des services de santé pour la province de Maguindanao.
Nous nous attendons à observer une croissance de cas de diarrhée, de fièvre, de toux et probablement des cas de fièvre typhoïde. Nous ne pourrons pas tenir plus d'une semaine dans cette situation. Sinon, nous rencontrons des problèmes sanitaires sérieux, ainsi que des cas graves de diarrhée et des infections dues à l'eau.
Ces villageois ont été surpris par la violence des récents affrontements et ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils ont éclaté. C'est la plus grave crise humanitaire dans la région depuis qu'un cessez-le-feu a été signé en 2003 entre le principal groupe rebelle musulman, le MILF, ou Front de Libération Islamique et Moro, et le gouvernement philippin. Ils ont peur de revenir chez eux et quand ils le font, de nouveaux affrontements les forcent parfois à repartir. Début septembre ainsi, 6 villageois ont été tués par des bombardements de l'armée. La trêve, elle, n'a toujours pas été scellée et la Croix-Rouge internationale s'attend à voir affluer de nouveaux déplacés dans les prochaines semaines. Dominique Stillart est directeur adjoint des opérations pour la Croix-Rouge et il est venu déployer de nouvelles actions pour apporter de l'eau, des soins et de la nourriture sur place.
Il y a souvent des déplacés sur Mindanao, mais cette fois, il y a jusqu'à un demi-million de personnes qui ont été affectées, qui à un moment donné ont dû quitter leur foyer. L'autre chose qui nous inquiète quand même beaucoup, c'est qu'on a l'impression que c'est pas fini. Maintenant, c'est le Ramadan, effectivement. Du jour au lendemain, plus ou moins, les combats ont cessé. Mais on craint quand même qu'à la fin du Ramadan, le conflit va continuer. C'est pour cette raison que nous, on a renforcé notre dispositif sur Mindanao. Maintenant, on a triplé, voire quadruplé notre effectif.
Les combats les plus violents ont commencé le 10 août. Le gouvernement et ce groupe du MILF devaient alors signer un accord important qui délimitait l'étendue d'une nouvelle région musulmane de type fédéral sur l'ouest de Mindanao. C'était là une étape historique. À terme, les musulmans Moro auraient pu gérer leurs propres ressources naturelles, leur économie et adapter le système législatif à la loi musulmane, par exemple. Mais les élus locaux, eux, n'ont appris ce plan prévu par Mani qu'à la veille de sa signature. Ses dirigeants, la plupart catholiques, s'y sont immédiatement opposés. Le gouvernement a donc dû faire marche arrière alors que l'accord avait déjà été paraphé par les membres de chaque panel de négociation. Cette décision du gouvernement a été très mal prise par les musulmans et deux commandants du MILF ont lancé des attaques spontanées contre des villages. Ces combats ont fait plus de 40 morts civiles en quelques semaines selon l'armée. Résultat, le gouvernement a dissous son équipe de négociation et lancé une véritable chasse à l'homme contre ces deux commandants. Sur le bureau du colonel Ando, le porte-parole de l'armée dans la région, la tête de chacun de ses commandants est plaquée sur une grande affiche avec leurs noms, Bravo et Kato. En dessous de leur portrait, la rançon offerte par le gouvernement pour leur capture, 150 000 euros pour chacun.
Ces deux commandants sont connus depuis longtemps pour leurs actions illégales. Bravo a déjà attaqué des villages en 2000 et Kato est responsable d'attaques à la bombe et de kidnapping.
Responsible for kidnapping.
Le colonel Ando insiste, l'armée n'est pas partie en guerre contre tout le MILF, mais seulement contre ses deux commandants, qui seraient à la tête d'environ 1500 soldats quand même, sur les 12 000 hommes armés que compterait le MILF.
For us, they really lost command. I know that, in fact...
Nous considérons que la chaîne de commande a été brisée dans le MILF. Nous avons reçu des informations selon lesquelles Kato et Bravo ne veulent plus suivre les ordres du comité central, car ils reprochent à cette direction de profiter de l'argent du gouvernement, alors qu'eux sont sur le terrain et manquent d'argent. Il y a une sorte de guerre froide des différents personnels avec le comité central. À présent, les hommes de Kato sont dans les marais. Ils n'ont plus de nourriture, plus de médicaments, ils ont froid. Ce que je vise maintenant sont ces hommes. Eux pourraient être intéressés par l'argent de la récompense. Kato fait donc très attention à ces hommes. Il y a 17 bases de commande du MILF et nous sommes en conflit avec seulement 3 d'entre elles. Les 14 autres sont toujours en contact avec le gouvernement. Ainsi, nous continuons à respecter le processus de paix.
Ce processus de paix sur le terrain est normalement très efficace. C'est une équipe internationale d'observateurs militaires encadrée par la Malaisie qui veille à son respect. Depuis qu'elle a été créée en 2003, le nombre d'affrontements entre le MILF et l'armée a été drastiquement réduit. En 2007, il n'y en a eu qu'une douzaine contre plus de 700 cinq ans auparavant. Mais voilà, la Malaisie a également décidé de retirer ses troupes de Mindanao. Son ministre de la Défense a estimé que le processus de paix n'avançait pas suffisamment. Le gouvernement philippin a réussi à les retenir à bout de bras pour 3 mois supplémentaires. Mais quand les observateurs malaisiens partiront vraiment, il n'y aura pratiquement plus personne pour servir de médiateur. Un élément de plus qui indique que la paix est en danger à Mindanao. Darapanan, le camp central du MILF, à quelques kilomètres seulement de la grande ville de Cotabato et du siège de l'armée. C'est un sanctuaire bien gardé et respecté comme tel par l'armée philippine. Des hommes en treillis portant les insignes du MILF gardent les checkpoints successifs. Ce camp est en fait un petit village. Des champs de riz s'étendent à perte de vue sur plusieurs hectares. Des villageois musulmans y habitent. Le plus important d'entre eux, le combattant historique, est Ebrahim Al-Hajj Mourad, le chef du MILF. Cet homme de 60 ans combat depuis près de 30 ans pour l'autonomie du peuple moro-musulman. Et aujourd'hui, il veut croire qu'il est toujours possible de revenir à la table des négociations.
Il n'y a pas moyen de laisser tomber cet accord d'autonomie après avoir travaillé dessus pendant 4 ans. Tout le monde était d'accord. Et d'un coup, le gouvernement décide qu'on n'en parle plus. C'est absurde. Le panel de négociation l'a paraphé. C'est pour nous un point d'accord qui reste. Car le problème a surgi du côté du gouvernement. Il n'a apparemment pas assez informé les élus locaux. Et ceux-ci se sont tournés vers les sénateurs et la Cour suprême. Nous, nous avons fait une grande assemblée de consultation dès 2003, avec plus de 2 millions de personnes. Et il n'y a pas eu de contestation parmi les musulmans moraux.
À l'heure actuelle, le gouvernement refuse de parler de négociations avec le MILF tant que les deux commandants inculpés ne sont pas arrêtés. Ebrahim Mourad reconnaît que ces deux commandants ont agi de manière indépendante et contre les ordres du MILF, mais il prétend qu'ils sont maintenant sous contrôle.
Ces commandants ne sont pas récalcitrants, ils ont agi unilatéralement à un moment. Mais se sont retirés dès qu'on leur a ordonné à l'Anao del Norte. Ils ont fait cela car ils étaient frustrés par l'échec de l'accord. Mais ce que nous demandons, c'est une enquête du panel de négociation, la seule entité reconnue par les deux parties, afin de savoir qui est vraiment responsable des crimes commis.
Il n'y a eu pourtant pour l'instant aucune sanction réelle contre ces deux commandants. Cela laisse penser qu'il y a des divergences importantes au sein du MILF et que la direction a de la peine à maîtriser ces éléments rebelles. Dans cette situation instable, le chef du MILF reconnaît un risque, celui de l'infiltration terroriste venant principalement d'Indonésie.
Nous maintenons notre ligne de conduite. Nous condamnons le terrorisme car cela ne peut pas être un moyen d'atteindre notre objectif. Mais nous savons que d'autres groupes opèrent dans la zone, comme Abu Sayyaf et la Jemaa Islamiyah. Nous avions jusqu'à présent un groupe d'action commune avec les troupes du gouvernement philippin. Et cette action a pour l'instant pu empêcher qu'ils pénètrent vraiment à Mindanao. Ces dernières années, nous avons travaillé dur pour faire naître une atmosphère propice à la paix. Mais que va-t-il arriver maintenant? Si la guerre arrive, ce sont ces groupes terroristes qui vont profiter de cette situation, car il n'y aura plus aucun contrôle si ce processus de paix échoue. Ces groupes terroristes pourront entrer à Mindanao.
Les musulmans ne sont pas les seuls à être armés à Mindanao, loin s'en faut. Après plus de 40 ans d'affrontements plus ou moins violents avec les musulmans, les chrétiens, minoritaires sur cette partie ouest et rurale de l'île, ont appris eux aussi à se défendre et la plupart sont déjà bien armés. Alors, au milieu de ce mois d'août dernier, après l'attaque de plusieurs villages par le MILF, ils ont décidé de réagir et ils ont créé une nouvelle milice appelée les Ilagas. Les Ilagas ont laissé un souvenir sanglant à Mindanao. Dans les années 70, au plus fort du conflit, ces chrétiens ont assassiné des centaines de musulmans. Mais la situation est différente aujourd'hui, affirme Mike Santiago, le porte-parole du groupe des Ilagas réformés. Cet homme de 60 ans surveille un village du centre de l'île, caché derrière une cagoule, un vieux fusil M16 à la main. Il explique que leur but est à présent de défendre tous les civils, même les musulmans, contre les attaques non contrôlées du MILF.
Mission and vision is to defend every barangay.
Notre mission est de défendre chaque village contre les atrocités du MILF avant que l'armée ou la police n'arrive. Nous nous retirons quand ils arrivent. Nous voulons défendre les villageois, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou des groupes ethniques locaux. Nous avons eu en effet pitié des musulmans car les combats les ont fortement touchés. Dans chaque village, nous avons déjà des leaders et nous sommes répartis sur toute la province du Cotabato Nord. Nous avons plus de 10 000 hommes armés et nous refusons pour l'instant d'autres membres afin de pouvoir les contrôler.
Ce chiffre de 10 000 membres est pris très au sérieux par les autorités locales et le groupe des Ilagas serait même en train de s'étendre sur d'autres provinces de Mindanao. On ne s'attend pas pour l'instant à voir des attaques violentes comme dans les années 70, mais si les civils commencent autant à s'impliquer dans le conflit, cela pourrait embraser la région. C'est en tout cas ce que craint un membre de l'Église catholique particulièrement actif dans le processus de paix, l'évêque auxiliaire de Cotabato, Colin Bagafaro.
Ce dont j'ai peur, c'est que cela se transforme en guerre entre civils. Qu'en voyant les chrétiens s'organiser, les simples villageois musulmans commencent également à s'armer, sans même qu'ils soient liés au MILF, et qu'on assiste à des combats sporadiques qui mènent à un vrai chaos. C'est cela dont j'ai peur.
Après les combats du mois d'août, le gouvernement a fait appel aux deux clergés catholiques et musulmans afin de calmer la situation dans l'ouest de Mindanao. Ces deux clergés ont déjà une structure de discussion commune depuis quelques années et le gouvernement de Manille aimerait en faire une plateforme de médiation vers la population et en faveur du processus de paix. Le prêtre Colin Bagafaro est ouvert à cette idée, mais il demande surtout au gouvernement de mener un vrai travail de consultation avec les gens de Mindanao.
Le nouveau panel de négociation doit être majoritairement composé de personnes venant de Mindanao. Les élus, par exemple, les parlementaires originaires de Mindanao pourraient élire un représentant parmi eux. Les gouverneurs aussi. Ils auraient plus de crédibilité et connaîtraient mieux les aspirations des habitants. Il n'y a pas d'urgence à reconstituer ce panel. Il faut d'abord laisser la tension retomber et mener de nouvelles consultations. Et après, nous pourrons parler d'un nouvel accord de paix.
Les plaies ouvertes pendant ce nouveau conflit entre le MILF et l'armée philippine mettront certainement du temps à cicatriser. Cette blessure est d'autant plus profonde que ce sont toutes les structures de dialogue difficilement mises en place depuis 2003 qui sont à présent fragilisées. Les médiateurs malaisiens étaient par exemple jusqu'à présent les seuls à empêcher qu'un accrochage local n'empire en conflit généralisé et aujourd'hui, peu de pays se pressent pour venir remplacer cette équipe. Pourtant, beaucoup de monde aurait intérêt à ce que la paix revienne à Mindanao, car cette île est la plus riche en minerais des Philippines. Des quantités importantes d'or se cacheraient encore dans son sol, ainsi que du pétrole, car nous sommes ici sur la même plaque géologique que l'Indonésie. Mais les études sont très difficiles pour l'instant et l'extraction totalement impossible. Toutes ces ressources ne pourront être exploitées qu'une fois que la paix sera revenue. C'était Grand Reportage à Cotabato et dans l'ouest de Mindanao. Reportage Sébastien Farcy, réalisation Marc Minatel.